Concernant le terme de fils de Dieu, nous appelons Jésus fils de Dieu, et pour le peuple musulman, c'est un véritable blasphème. Ils sont choqués, outrés, et nous ferons toujours face, je dirais, à des objections face à cette question-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point pour un musulman, il peut être réactif quand il entend un chrétien dire Jésus fils de Dieu. Pour eux, c'est un véritable blasphème. Hashakum, il s'agit là d'une immense offense envers la personne de Dieu lui-même. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Dans leur raisonnement, lorsqu'ils entendent le terme de fils de Dieu, ils pensent à l'acte physique qui unit un homme avec une femme. Ils pensent que nous croyons que Dieu a dû avoir une relation sexuelle avec Marie pour engendrer Jésus. Voilà la raison pour laquelle cela représente une grande offense à leurs yeux. En fait, beaucoup d'entre eux se boucheront les oreilles avec leurs doigts et demanderont à Dieu de vous pardonner pour avoir osé proférer une telle insulte à l'égard de Jésus. Ce point est très fort dans la compréhension. C'est pourquoi, avant de leur expliquer pourquoi nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous avons besoin de leur expliquer pourquoi nous ne croyons pas dans ce terme Fils de Dieu dans le sens où ils l'entendent eux, parce que c'est un véritable blasphème. Les musulmans pensent et entendent que nous croyons que Dieu a une relation sexuelle avec Marie et qu'elle a eu un fils. Hacha haram. Même nous ne croyons pas en tout cas dans cette explication-là. Mais voici ce que nous croyons. Nous croyons pas que Dieu a une relation sexuelle avec une femme et qu'il a eu un fils, mais nous nous plaçons sur un plan spirituel. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela est très étrange. Et il nous faut prendre véritablement le temps d'expliquer ceci à nos amis musulmans pour qu'ils comprennent réellement ce que nous croyons. C'est le cœur même de ce séminaire. Souvenez-vous, notre désir est de partager l'évangile avec douceur et respect. C'est ceci la clé. En nous objectant, c'est vrai, d'appeler Jésus fils de Dieu, les musulmans auront le sentiment de défendre Dieu et ce qu'il est, car pour eux, c'est un véritable blasphème. Nous devons donc leur expliquer que nous employons cette expression dans un sens spirituel, que nous ne croyons nullement que Dieu a eu quelconque relation avec une femme et a eu un fils, mais nous croyons que ce terme de fils de Dieu est tout d'abord sur un plan spirituel. C'est pas Ibn Allah, mais c'est Ibn Maryam Ruh al-Qudus. Par la puissance du Saint-Esprit, il a été engendré et c'est un miracle. C'est ce que confirment le Coran et la Bible. Maintenant, je voudrais simplement vous illustrer ceci. Comment allons-nous appeler quelqu'un qui vient du Liban ? Nous l'appelons en arabe Ibn al-Erz, fils du cèdre. Puisque le cèdre représente, je dirais, tout le Liban, c'est là un grand symbole. Quelqu'un qui est né en Égypte, nous l'appellerons le fils du Nil. Et c'est là aussi, je dirais, quelque chose de très important. Sans le Nil, en tout cas, il n'y a plus d'Égypte. C'est un honneur pour nous, véritablement. Quand on utilise le terme fils de Dieu, il ne faut jamais l'entendre dans le sens où, finalement, les musulmans l'entendent. Dans un sens charnel, mais c'est un engendrement qui est spirituel. Dans la langue arabe et dans toute la culture orientale, de telles appellations sont très communes. Je dirais fils du Liban, fils du Nil, Wild Bled. Nous allons parler donc maintenant de Jésus comme étant le fils biologique de Dieu, mais nous nous plaçons uniquement sur un plan spirituel. Mais que croyons-nous réellement ? Pourquoi disons-nous que Jésus est le Fils de Dieu ? Regardez avec moi ce que disent tout d'abord les Écritures et rappelez-vous que nous cherchons à utiliser la Bible car elle est vraiment la principale, je dirais, outil dans notre partage auprès des musulmans. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 et nous allons lire ensemble les versets 26 à 35. C'est le passage où l'ange Gabriel vient parler à Marie et lorsqu'elle est fiancée à Joseph en vue d'un mariage, elle est donc toujours vierge. Après l'avoir en tout cas saluée, l'ange lui annonce qu'elle va devenir enceinte et qu'elle enfantera un fils. Mais là, Marie est complètement troublée Et comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Voici ce que l'ange a répondu à ce moment-là, et c'est d'une grande importance en tout cas pour nous. Écoutez ceci. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et c'est la puissance du Très-Haut qui te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Notez ce qu'il est écrit. Sera appelé Fils de Dieu. Cela signifie que Jésus n'est pas né de Dieu, dans le sens physique du terme, mais qu'il est appelé Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'il vient de Ruh al-Qudus, du Saint-Esprit de Dieu. Ce moment est extrêmement important dans la vie d'une personne musulmane, parce que c'est foncièrement étranger à la nature sémitique, car il considère Christ complètement autrement que nous. C'est un changement radical dans sa vie, dans sa façon de penser, dans son histoire, dans son arrière-plan. Il existe un verset dans le Coran qui enseigne aux musulmans que Dieu n'est jamais né, je dirais, et n'a jamais été engendré, l'ami Alid ou l'ami Ouled. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas appeler Jésus fils de Dieu. Mais quand nous utilisons ce terme de fils de Dieu, nous avons besoin de le replacer dans son contexte, et au lieu d'utiliser le terme « fils de Dieu » sans l'expliciter, nous avons besoin tout d'abord d'expliquer ce que nous croyons pas, et après utiliser le terme de « fils de Dieu » en disant que c'est pas un engendrement charnel, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Jésus est venu par la puissance de Ruh al-Qudus du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous l'appelons « fils de Dieu ». C'est comme un titre. J'aimerais maintenant que vous puissiez considérer un autre texte important à propos de la personne du terme « fils de Dieu ». Nous le trouvons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, où il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Remarquez la chose suivante. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a là deux notions qui se trouvent dans la langue arabe. Un fils nous est donné. Jésus est venu par nous, par l'action de l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Marie. Et c'est pour cela qu'un fils nous est donné. Mais il est également dit, un enfant nous est né. Jésus est effectivement né de la Vierge Marie, comme une vraie personne. Il est d'une grande importance que Dieu se fasse chair. Et il l'a fait par l'intermédiaire de Marie. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe a prophétisé des centaines d'années avant la naissance de Jésus, ce que je suis en train de vous partager. Jésus est né sur cette terre d'une naissance naturelle, mais d'un point de vue spirituel. Il est venu en tant que fils, il vient de l'Esprit de Dieu. Comment l'appelons-nous ? Donc, fils de Dieu, parce qu'il vient de Ruh al-Qudus, parce qu'il vient de l'Esprit de Dieu. Mais il est également venu sous la forme d'un enfant, en passant donc par la naissance physique. C'est pourquoi Ésaïe a utilisé ces deux notions de naissance et de don. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici le terme biblique qui est utilisé dans le livre d'Ésaïe. Cette notion, nous devons l'expliquer avec une perspective spirituelle et non sur un plan physique et humain. C'est très important. Prenez véritablement votre temps pour expliquer tout ceci, même plusieurs fois. C'est vraiment nécessaire. Nous avons besoin d'expliquer à nos amis musulmans, à notre interlocuteur, vraiment plusieurs fois. C'est une notion qui est très difficile à comprendre et réaliser. C'est pour ça que nous avons besoin de la répéter. Et toujours dans ce même verset d'Ésaïe, il est très important de voir que Jésus lui-même, le Fils, se trouve également être Dieu lui-même. Voyez ce que dit le verset 5 par la suite. « Et la domination reposera sur son épaule. » Cela signifie qu'il aura l'entière et toute l'autorité qui reposera sur son épaule. Pourquoi Jésus dit à la fin de son ministère, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Domination qui reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Yeshua al-Masih. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nous en arrivons au principe de la Trinité où vous pourrez expliquer à votre ami musulman pourquoi nous ne croyons qu'en un seul Dieu. apparu sous trois formes. Mais pour le moment, la personne musulmane a au moins la possibilité de voir Jésus comme étant le Fils de Dieu, à la fois qui est né de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il est important de poser la question suivante. Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait en sorte que Jésus naisse d'une vierge? C'est à ce moment-là que vous pourrez véritablement expliquer que le fait que Jésus soit né d'une femme uniquement et non de l'union d'un homme et d'une femme signifie qu'il n'a pas revêtu la nature du péché. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève ont transmis le péché et ça a été la conséquence de la chute. Ils ont en quelque sorte transmis le virus du péché à tous leurs descendants. C'est pourquoi David s'est écrié « Voici, je suis né dans le péché, dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous sommes tous conçus et nés, je dirais, avec le péché. Nous vivons tous avec cette nature pécheresse. Et tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'un rédempteur. Mais pour nous racheter des conséquences du péché, Jésus devait complètement revêtir une autre nature que la nôtre. Jésus devait avoir une nature différente de la nôtre. Il devait être né par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est sans péché, comme nous le lisons dans Ésaïe. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé aucune fraude. Il n'y avait pas de péché en lui. Cependant, il devait revêtir une nature d'homme parce qu'il devait mourir. Mais nous partagerons sa mort dans quelques instants. Pour le moment, réfléchissons aux conditions de sa naissance. Pourquoi devait-il naître d'une jeune fille vierge, Marie? Permettez-moi de vous donner quelques petits conseils. Quelques amis musulmans pourraient rétorquer en vous disant « Très bien, je crois que Jésus est né d'une vierge, mais il s'agit là que d'un demi-miracle. » Pas plus. Dieu a créé Adam à partir de rien. Jésus, quant à lui, il est né d'une femme. Donc ce n'est ni plus ni moins finalement qu'un demi-miracle. Cela reste un miracle de n'être né que d'une femme, seulement et non d'un homme et d'une femme. Toutefois, un musulman dira, en fin de compte, il est comme Adam, mais en fait, il ne l'est pas. Pourquoi? La différence est grande. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Vous pouvez démontrer que Jésus n'est pas comme Adam. Le livre de la Genèse nous parle là du souffle de Dieu. Dieu a soufflé son esprit à l'intérieur de l'homme, ce qui n'a rien à voir avec Ruh al-Qudus, avec la puissance du Saint-Esprit. Jésus est né par l'Esprit-Saint, alors que dans la Genèse, il est parlé du souffle de Dieu. Le souffle et l'Esprit-Saint n'ont rien à voir, sont diamétralement opposés. Et s'ils ne sont pas, en tout cas d'accord, vous voyez la grande différence entre Adam et Jésus. Ils ne sont pas pareils. Nous pouvons le voir de façon en tout cas claire et directe avec les Écritures, comparer Genèse chapitre 2 avec Luc chapitre 1, et vous verrez en tout cas la différence. Nous allons maintenant nous diriger vers les principes suivants pour parler vraiment de la mort de Jésus, de sa crucifixion et pourquoi Jésus est mort sur la croix.